Oula, elle est rare cette piquette aussi là. T'as goûté?
Je peux boire? Je peux goûter?
Non mais c'est un vin terreux avec un bouquet que de cerises. C'est une merveille.
CO2, mon amour.
J'ai un oncle qui est viticulteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne note dans le guide par cœur, les vins doivent avoir une note de vanille et être sucrés et ronds. Et du coup, les gens abandonnent les cépages acidulés. Tout ça pour vendre.
Chaque jour, un peu de la diversité du monde disparaît.
Avec Denis Chessou.
C'est l'inévitable entropie de l'univers.
Sur France Inter.
Et dans CO2 de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, on essaye de remettre de la diversité. Bonjour à tous, à la technique aujourd'hui dans CO2 de mon amour, Clément Berman. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Xavier Pestudia qui la réalise. Avec évidemment une petite humeur, là on ne peut pas s'en empêcher. Car, souvenez-vous, dans la nature se glissait dans les pupitres. Oh là, il fut un temps, peut-être pas si lointain, où les écoliers en blouse républicaine n'avaient pas coupé tout à fait les ponts avec la nature. Alors on se souvient en classe de certains pupitres inclinés en bois que l'on pouvait entrouvrir discrètement. Et là, ils hébergeaient, selon la saison, une famille de grillons avec biotope, terrarium complet, ou bien une escadrille de hannetons, des hannetons bien gras et bruns, que certains ingénieux équipaient d'un fil à coudre accroché à la patte qui permettait de les faire voler en rond pendant des heures d'études. Aujourd'hui, les hannetons se font rares et les pupitres sont des objets de brocante. Mais le goût des avions mécaniques tournant sans fin autour d'une planète colorée de tous ses continents et océans ne nous a jamais quittés. Et dans l'actualité, eh ben, on a entendu ceci. Bienvenue à bord dans ce vol à destination de... Nulle part. Un vol qui part d'un aéroport australien, japonais, taïwanais, qui atterrit une heure et demie après au même endroit. Atterrant, mais que nenni, on ne voyage plus, on se distrait. Fly to nowhere. Aubaine pour les compagnies en cale sèche. De 500 à 2300 euros. Ouais. Demandez le programme. Et en plus, ça marche, ou plutôt, ça vole. Quelques ronds dans le ciel et tonnes de kérosène plus tard, on rentre à la maison. Alors ça s'adresse à qui? Eh ben, à ceux qui s'ennuient et aux addicts qui prennent l'avion et qui ont besoin d'entendre PNC à vos portes, contrôlez vos vis-à-vis, ainsi que le gazouillis des réacteurs comme une drogue rassurante. C'est même plus fort que les vols à vide qui permettent aux compagnies aériennes de conserver leur créneau de vol. Et l'avantage, si vous avez le Covid, eh ben vous reviendrez avec et vous ne le filerez pas aux voisins étrangers. Hein? Voilà. Bon, d'accord, c'est déjà fait. En fait, j'ai rien compris, parce que je suis très mauvaise langue comme d'habitude. Ces voyages pour nulle part permettront d'avoir une vue panoramique sur les ravages du réchauffement climatique et les forêts qui brûlent au sol, et ainsi de développer sa conscience écologique. Vous y croyez pas, moi non plus. Les États ont raison de renflouer le secteur aérien. Alors je vous rassure, Air France et les compagnies aériennes n'ont pas eu cette tentation. L'économie des comptoirs d'embarquement, comme les hannetons d'enfants en laisse, se tourne en rond. Illusion de voyage, illusion de la vie. Le monde d'après, oui, celui d'avant en pudingue, mais cette fois à des niveaux stratosphériques.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Alors, dans cette émission, dans la dernière partie d'émission, avec vous, Arnaud Gossemont. Bonjour à vous, Arnaud.
Bonjour, Denis.
Avocat environnemental, nous regardons aussi le ciel.
Exactement, les tourterelles plutôt.
Les tourterelles. Donc, ça va être le décryptage juridique très, très intéressant, parce que vous allez voir, ça en vaut le coup. Semaine des départs, migration des derniers oiseaux et aussi des humains.
Je suis né libre. J'étais un enfant libre. J'étais un enfant muet, mais un enfant libre. J'étais une jeune fille libre, je suis une femme libre, maintenant je suis une vieille dame libre. C'est la seule chose qu'on peut regretter dans la mort, c'est de pas continuer à rigoler et à découvrir.
Alors Vérou pour Gréco, allez savoir, nous l'écouterons au printemps dans son jardin, et sans l'avoir cherché, vous en doutez, donc une thématique enciellée. Mais vous savez que CO2 Mon Amour est toujours adepte du pas et de l'interview de côté, donc l'occasion de voir le rapport à la nature avec nos intervenants. Départ Vérou pour Michael Lonsdale, rencontré il y a 6 ans, sûrement Verdieu et le ciel à coup sûr, et aussi les fleurs.
Oui, moi j'ai un grand amour des fleurs. Et de la nature, oui, depuis que j'ai été petit.
Est-ce que c'était du côté de Londres, ça, ou c'était où, ça?
Non, pas à Londres, mais c'était à l'île de Jersey, où mes parents avaient un hôtel avec un beau jardin. Évidemment, il y avait la mer pas loin, une plage à perte de vue. Je m'étais fait mon petit coin jardin, moi. Alors, je ne sais pas très bien comment faire. Mais j'aimais bien gratter comme ça, puis je prenais d'autres, puis je repiquais. C'était mon petit jardin secret.
À cette période-là, vous avez commencé à parler aux plantes ou c'est venu après ?
Oh non, c'est bien après les plantes. C'est seulement depuis quelques années que je parle aux plantes.
Vous avez sauvé d'ailleurs la plante d'une amie, hein ? Vous êtes allé chez...
Eh ben oui, cette malheureuse plante qui était... Enfin, il ne restait plus qu'un bout de bois qui dépassait de... Comment ça s'appelle, là où on met les plantes ?
Ah ben le pot.
Le pot,
oui.
Un bout de bois vilain comme ça, alors j'ai demandé... J'ai dit, mais qu'est-ce que ce bout de bois-là ? Oh, c'est une plante qui donne plus rien. J'ai dit, ah bon, vous êtes sûr qu'elle est morte ? Ah ben oui, ça fait plus d'un an qu'elle est comme ça. J'ai dit, mais vous lui avez parlé un peu, non ? Ben non, écoute, elle est morte. J'ai dit, ah ben, apportez-la-moi. Allez me chercher un verre d'eau. Et j'ai fait mon petit discours à la plante. Et alors, je lui ai dit, ben oui, voilà, tu as été dans cette maison très appréciée. Une belle plante, on t'a aimé, tout ça, et puis maintenant, tu vois, alors peut-être qu'il y a encore de la vie en toi, je ne sais pas. Et deux jours après, m'appelle, elle me dit, mais dis donc ta plante, tu sais que petit machin là, qui a percé là, un peu vert.
Ça s'appelle un bourgeon, ça
Oui, j'ai dit, ben voilà, il fallait lui parler, tu vois. J'ai des arbres magnifiques sous mes fenêtres, très haut, très qui. Moi, je suis au quatrième et là, ça monte jusqu'au sixième. J'ai tout un jardin, le jardin de l'intendant, là, autour du tombeau de Napoléon. Mais j'aime beaucoup le jardin à l'anglaise. J'aime pas le jardin français symétrique, Versailles, j'aime pas du tout. Toutes ces plantes qui ont été mises en boule et bien carrées, pour moi, ça me fait souffrir. Je n'aime pas qu'on change la forme d'une plante.
Michael Lonsdale, dans cet ouvrage édité chez Bayard, des jardins et des hommes que vous avez donc écrit avec Gilles Clément, avec Jean-Marie Pelt et avec Patrick Scheider, à chaque fois, dans tous les témoignages, le jardin c'est quand même ce qui relie.
C'est l'installation de quelque chose qui a déjà été créé. Et, donc le
c'est-à-dire qui a déjà été créé parce que
c'est la fleur, c'est pas nous qui l'avons créée. Mmh. Elle est comme ça et les arbres comme ça. Donc c'est de nous, la façon dont on les respecte, les considère, les aime, et puis être charmé par la symphonie que c'est, quoi.
Lonsdale rencontré dans son jardin parisien. Et elle, bah vous le savez, elle est partie aux dernières stridulations des grillons, dernières notes d'été qui vont l'accompagner. Gréco, dame en noir, mais aussi tout en couleur, comme les fleurs de son jardin dans quelques instants.
C'est un dimanche de pluie, sans un coin de ciel bleu. Un dimanche de trop, où ton cœur amoureux frissonne sous la pluie. Quelle tragédie, c'est un dimanche. Sur la roue arrière, un ciel entre le gris, pire qu'à la vie. Une journée de rien, un jour pluvieux. C'est toujours une journée, au moins, là c'est même mieux. Sur la corde à linge, nous n'irons pas aux eaux. Il neige sur les singes, mais pas des confettis. Pierre Caladi, c'est un dimanche de pluie, sans oiseaux dans la soie, sans marcher dans l'eau, en gardant ses chaussures. Le ciel entre de gris, c'est assombri, une c'est mieux.
Oui, moi je suis un petit peu inquiète pour mon noyé, qui est plusieurs fois centenaire, le pauvre petit.
Oui.
Et je trouve qu'il a mauvaise mine.
Bah, c'est-à-dire qu'il n'a pas démarré grand-chose, là.
J'ai l'impression qu'il est en train de nous dire adieu, là.
Et alors, chère Juliette,
On a tous nos arbres de Noël.
Vous les plantez à chaque fois?
Il y en a quelques-uns qui n'ont pas pris, bien entendu.
Oui.
Mais vous voyez la taille qu'ils ont, là?
Ah ben là, c'est-à-dire qu'ils vont carrément toucher le traîneau du Père Noël.
Quoi, ah oui.
Hein, c'est ça.
Elle est très en retard, notre nature, là, cette année.
Oui.
Très, très en retard.
Alors, elle connaissait par cœur son grand jardin, ses arbres, ses arbustes, ses fleurs. 40 ans de complicité avec ce lieu dans l'Oise, à Verderonne. Je l'avais appelée, elle a répondu, c'est pas pour vous faire parler de Sartre, de Prévert, de Miles Davis, mais ça va être pour vous faire parler de nature. Ah, alors là, je dis oui tout de suite. Mais bon, on ne m'interroge jamais sur la nature, mais alors là, je peux pas parce que je chante en Allemagne, après je vais en Suisse, après je vais au Japon, mais le dimanche 29 avril, allez, venez. D'accord, mais si ça vous dérange pas, je viens à vélo déguisé en clown parce que dimanche, c'est jour de vélo. Ah, mais pas du tout, vous me le présenterez. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Et alors, ce matin d'avril 2012, il pleuvait, mais l'après-midi, avec cette gamine de 85 ans, c'était soleil, vent, bien-être, nature, simplicité délicieuse, tasse de thé et chaleur humaine. Gérard Joineste, son mari pianiste et compositeur, n'était pas loin. Tu fais pas de piano pendant l'interview, s'il te plaît. Hein. Nous sommes dans le jardin de celle qui se définissait avec humour, non pas comme un mythe, mais comme une mythe de Saint-Germain-des-Prés. Alors, elle n'était pas toute nue sous son poule, mais le jardin ivre de printemps n'était pas non plus ma boule.
Vous avez vraiment besoin, vous, Juliette Drécot, de cette nature, parce que bon, là,
absolument.
On a ce sticker habituel que vous connaissez par cœur, Muse de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas exactement la biodiversité la plus évidente dans ce quartier.
Il y a quand même le Luxembourg.
Il y a le Luxembourg, c'est exact.
Il y a le square de l'église Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
On ne peut pas dire que ce soit une énorme nature, mais bon.
Non, mais vous avez toujours eu besoin de cela.
J'aime ça,
ouais.
J'aime ça. Je suis né les pieds dans la terre. Hein.
Alors, bah justement, est-ce que ça commence avec aussi le Bordelais, votre grand-père qui était...
Ouais. Ça commence, c'est une éducation. Et puis, c'était des gens qui avaient des vignobles. C'est genre paysannerie distinguée,
oui. Mais
un peu snob, mais quand même paysannerie, il n'y a pas de doute.
Et donc, c'est votre grand-père qui vous a fait découvrir alors, les plantes, les élixirs?
Absolument. J'avais fait beaucoup rire mon grand-père parce qu'il adorait les roses. Alors, il y avait plein de roses dans le jardin, plein de rosiers. Et il me racontait, celle-là s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'ai été très surprise. Un jour, je lui dis, mais comment ça se fait qu'il y ait une si grosse fleur qui sort d'une si petite tige?
C'est joli.
Oui, oui, c'est des choses d'enfant. Celui-là, non, ça va, il va bien, celui-là.
Bon, vous avez les chênes, oui, c'est ça.
Centenaires, plus que centenaires.
Oui, mais ça veut dire qu'ils sont jeunes, hein, vous savez, ils peuvent tenir...
Ah, ils sont d'une humeur de rose, là.
C'est ça.
Regardez-les, ils ont la verdeur de la jeunesse.
Et ils chantent, ils chantent juste. Je pense que oui, ils chantent
juste. La nature chante juste.
Un petit poisson, un petit oiseau, se met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Ça, je les ai rapportés. J'avais un petit jardin à Paris.
Oui.
Je les ai rapportés il y a plus de 20 ans.
Lila Blanc.
Ça fait partie aussi des souvenirs d'enfance. C'est ma mère qui chantait le beau Lila Blanc, qu'adorait mamie. Et bientôt fané.
Et vous avez besoin de mettre les mains dans la terre? Enfin, peut-être vous avez fait ça.
Mais ça fait longtemps que. Oui, oui, oui. Je m'entends bien avec la terre. Bon, je dis qu'ici, j'écoute l'herbe pousser. C'est un peu vrai. Vous entendez le silence? Ça, j'en ai besoin. C'est assez joli, ça.
Ah, joli massif, là aussi.
Ouais. J'aime beaucoup les iris.
Ouais. Alors, on attend un peu encore. Hein.
Non, mais il s'est passé quelque chose, il a fait très très froid cet hiver. Celui-là a tenu le coup.
Ouais, de toute façon, là, ça a été une sélection naturelle.
J'attends avec impatience les pivoines.
Ah.
Celles-là sont rouges. Là, j'avais des dahlias, je ne sais pas. Mais j'ai un jardinier approximatif, il faut dire.
Moi, j'aime bien cette notion-là, jardinier. Pas vous, mais j'ai un jardinier approximatif, c'est pas mal, ça.
Oui.
Bon, bah, voyez la mécréante que vous êtes. L'église est juste derrière vous.
L'église est derrière moi, oui. Et elle sonne l'heure. Oui. Et j'en suis heureuse. J'adore écouter l'air qui sonne. Oui. Mais c'était un curé formidable. L'église était en mauvais état, il n'y avait plus de bancs, il n'y avait plus rien. Et puis je lui ai racheté ses bancs, sur lesquels d'ailleurs je n'ai jamais posé mes fesses, mais oui. Bon. Puis un jour il m'a dit, ah, c'est triste cette horloge. Alors je l'ai fait réparer son horloge. C'était un soldat de Dieu. Oui. C'était un vrai curé. C'était un homme de sacrifice, c'était un homme de générosité. Il aimait ce que personne n'aime, c'est-à-dire les vieux et les enfants. Oui. C'est un type épatant. Non, mais il faut que je replante mon jardin, parce que là, il n'est pas...
C'est-à-dire que c'est un jardin qui se débrouille, et puis je pense qu'il sent que vous avez une bienveillance vis-à-vis de lui.
Je l'aime.
Voilà.
Je l'aime beaucoup. Ah oui, 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 je suis très redevable. Je suis redevable beaucoup de paix, oui. De beaucoup de silence, de vie. C'est vivant, un jardin. C'est surprenant parce que tout à coup, on se dit, celui-là, il est mort. Qu'est-ce qui lui arrive? Pas du tout. Il a pris simplement un petit peu de vacances et puis tout à coup, il reverdit.
Hein. Il est juste un peu en sommeil et oui, puis il décide oui. Du moment
oui, je n'aime pas l'hiver, moi. Je n'aime pas l'hiver. L'hiver me rend mélancolique. Je ne suis heureuse que quand je fais du feu dans la cheminée, là, ouais. Ça va.
Déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a plus de muguet. Je ne sais pas ce qui est arrivé au muguet.
Il est gelé, ça se trouve.
Je pense que oui.
Oui.
Tout ce qui est derrière le puits, là, c'était en muguet. Ben, un
brin.
Un.
Voilà.
Il y en avait plein. C'est pauvre. Ce qui reste.
Eh ben, deux, trois.
Je vais regarder de l'autre côté. Ce
allez,
qu'il y a.
On y va. Passer là. Dans un tunnel de tuya. Je vous présente mon vélo. Mon frère.
Ah, mais il est très fin.
Oui,
ah, bah ça. Il est joli.
C'est, oui, puis il est léger. Alors, Joël Gréco, quand on parle d'écologie, c'est vrai qu'à votre époque,
quand
c'était.
L'écologie, on a raison. Nous sommes en grand danger. Tout le monde en parle et personne ne fait rien. Mmh. Et l'écologie, c'est un petit peu chacun. Il faut avoir un peu le respect de ce qui nous est offert. Nous sommes des gens mal élevés. Des gens mal élevés, et égoïstes et plus intéressés par les plaisirs matériels que par le plaisir poétique. Voilà. On tue, on détruit ce qui nous est offert. C'est un peu comme le progrès, ça. Je ne comprends pas très bien cet illogisme. Là, on est dans une spirale de folie.
Alors, est-ce qu'un jour, il va y avoir un moyen, un déclic pour qu'il en sorte en dehors d'un chaos qui n'est jamais souhaitable, pour que l'on devienne, entre guillemets, plus sage, quoi, vraiment...
Non. Il va y avoir un chaos. Oui. On le construit avec une minutie, une volonté et une efficacité remarquables.
Oui.
J'étais en Allemagne la semaine dernière. Tout d'un coup, on passe la frontière, je me dis, c'est super propre et c'est évident.
Qu'est-ce que vous avez vu là?
Je vois un iris qui va sortir.
Ah, l'iris, oui.
Un noir.
Ça doit vous plaire, ça, un iris noir?
Ouais, j'adore.
Hein?
J'adore. Mais je les aime roses aussi. Rose. Oui. C'est beau parce qu'il y a un petit peu toutes les couleurs d'iris là.
Mais c'est parce que c'est les iris par mimétisme qui sont adaptés à vos tenues de scène ou c'est le.
Non, ce sont eux qui vivent leur vie.
Ah, d'accord.
Ils sont comme moi.
Ça peut être un hommage? Oui, j'ai bien compris.
Tranquille.
Oula, on va s'envoler. Attendez, on se retourne, on va se planquer là. Venez. Voilà, on va se mettre à l'abri. Voilà. Mais alors, cette notion, on va dire, de...
Il faut qu'on fasse un effort. S'il y a une révolution à faire, autre que celle politique, bien entendu, malheureusement, outre ça, il faut faire une révolution profonde dans notre manière de vivre. Parce qu'on fait des enfants, et on creuse leur tombe. Alors, il faudrait choisir.
Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il y a une coupure entre l'homme et la nature. Donc, par ce matérialisme... qui est né, on va dire, après la guerre, bon, qui se comprend parce qu'il fallait évidemment complètement décompresser. Et puis la France était, entre guillemets, un retard à récupérer. Mais après, depuis les années 80, ça s'est véritablement emballé.
que c'est dégradé. Et les gens sont malheureux, les gens sont revanchards, les gens sont méfiants. Ils ont une impression d'abandon terrible. Il n'y a plus de vie en commun. Il n'y a plus de tendresse humaine. Il y en a, mais elle est rare. Tiens, ah. C'est mon curé qui est content. Mais je crois qu'il est au ciel, mon curé.
Oui, mais c'est quand même lui, c'est un petit clin d'œil.
C'est pour lui.
Alors ici, il n'y a pas de champ de tournesol. Hein. J'ai vu pas mal de colza parce que là, c'est
j'en
la saison.
Plus. J'en peux plus. Dieu sait que j'aime Van Gogh et que j'aime ces champs dorés avec qui sont comme ça ravagés par les corbeaux. Mais là, j'en peux plus du colza.
Ah oui.
C'est trop jaune. Il n'y a plus de diversité.
Alors, je vous lançais sur les tournesols parce qu'en fait, vous êtes une des rares femmes à avoir touché les tournesols de Van Gogh.
Oui. Hein oui.
Vous ne faisiez pas comme tout le monde, quoi. C'était...
J'allais à la National Gallery à Londres. Le dimanche, je tournais à Londres. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'électronique. Ça. Il y avait les gardiens. Puis les gardiens, ils vont boire le thé à une certaine heure. Donc, aussitôt que je voyais qui filait, hop, je posais ma main sur le tableau.
Mais c'était pourquoi ? Pour essayer de toucher le... Parce que Van Gogh ?
Parce que la couleur.
Oui.
Parce que l'émotion.
Oui, c'est ça.
Parce que l'homme. Mmh. Voilà, parce que la beauté de la chose... Une beauté sensuelle. Normalement, la peinture, on a droit seulement au regard, à la vue. Là, j'avais la vue, le toucher.
Ah bon, on a de la visite, Juliette.
Il joue de la contrebasse, là.
Là, vous parlez de votre chat.
Et, oui,
et alors, expliquez pour nos amis, il joue de la contrebasse. Il est en train de se...
Oui, c'est en train de lécher les parties les plus intimes
c'est
de sa
ça.
Personne poilue.
Mais c'est joli, vous appelez ça jouer de la contrebasse. C'est vrai qu'il est très souple.
Oui, il est beau, hein.
Lorsque j'étais chat,
viens mon chaton, viens. Il rapporte fièrement le mulot, il le pose sur le paillasson à l'entrée de la cuisine.
C'est un don, vous le savez.
Ben oui, mais il est très poli, sinon que vraiment il est chasseur. Quoi, voilà.
Bon.
Alors, quelquefois j'ai aussi envie de le chasser, mais je l'insulte, salaud.
Ah oui.
Je l'adore, mais c'est vraiment un tueur.
Bah, il fait son boulot de chat, vous me direz. Oh. Mais c'est...
Ah mais oui, mais quand je le vois arriver fièrement avec une souris entre les dents, oui. Là encore, bon, passe. Oui. Mais l'oiseau, ça passe pas.
Je comprends.
Ah non, la maison, ça ne passe pas.
Oui. Et puis en même temps, vous adorez les chats parce que ça vous ressemble, hein, ça fait à peu près ce que ça veut. Quoi, donc...
J'adore les chats.
Ah oui.
Il est très bizarre ce chat. Quand je m'en vais, j'ai un fauteuil à table. Quand je suis là, il est tout le temps sur mon fauteuil. Quand je m'en vais, il n'y va pas. Comme un comble.
Oui. Vous négociez, vous le virez, vous le...
Je le vire.
C'est ça. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, cher Julien Dricourt ?
De mourir en bonne santé et pas trop tard.
Bon, eh ben, on va fêter la nature comme ça, hein, puisque c'est la fête de la nature. Et regardez...
Je voudrais lui dire merci.
Regardez
le ciel est magnifique. Un ciel d'orage absolument sublime,
ouais.
Sublime. Il pleut, il fait soleil, le diable bat sa femme et marie sa fille.
Merci Juliette et à très bientôt.
Merci à vous. Merci.
Nous nous quittâmes sous le soleil, c'était beau, ça fait du bien, vous imaginez bien, le thé était délicieux. Et puis, cette femme le disait, et puis elle l'a encore redit il n'y a pas si longtemps, elle disait tout simplement « Merci la vie ».
Of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news, I could use some one man revolution. Hallelujah, take me to. Thank you.
c'est sous le signe du ciel cette émission, c'était Céleste.
C'est un American Rabbit. Il est très gentil et il a un cycle de sommeil un peu comme nous, vous voyez.
CO2, mon amour.
Et vous en avez pas des malades, enfin un peu loose, qui mangent plus leurs croquettes, qui se disent tiens, ça y est, j'ai un peu fait le tour de la cage, peut-être temps de raccrocher les gants, tout ça. Ou mort.
Avec Denis Chessou.
Il n'est pas mort celui-là, là ?
Non, il n'est pas mort, il fait une sieste, mais je comprends pas, vous voulez acheter un animal pour le tuer ?
Ah non, 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 non. Ah non, 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 c'est mal compris, pardon.
D'accord, j'ai eu peur.
Pour pas vous mentir, moi je suis bouché.
Sur France Inter.
Bon, évidemment, ça change tout. C'est comme ça. Dernière partie de l'émission. Juliette Gréco, donc, aimait sans doute regarder, même sûrement, donc, les oiseaux de son jardin. Hein, un petit oiseau, c'est bien d'amour tendre. Bon. Alors, d'autres n'aiment pas les oiseaux d'amour tendre et préfèrent parfois leur tirer dessus. Donc, on ne va pas ouvrir l'éternel débat sur la chasse. Non, mais on va quand même en parler avec vous, cher Arnaud Gossman. Bonjour, Arnaud.
Bonjour, Denis.
Avocat et professeur associé à l'université Paris 1er, Paris 1, pardon, spécialiste du droit de l'environnement. Et donc, on va parler de cet oiseau. Voilà, c'est la tourterelle des bois. Et donc là, il y a un incroyable feuilleton judiciaire qui vient de se produire donc il y a quelques jours. Et eh oui, youpi, racontez-nous.
Oui, j'ai été très marqué en cette rentrée par cette affaire, l'affaire de la tourterelle des bois qu'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, s'acharne à défendre depuis des années. Que l'on soit pour ou contre la chasse, on peut pas accepter que la loi, qui est censée protéger bien sûr l'homme, mais aussi l'environnement, soit volontairement bafouée, qu'on fasse semblant. Or ici, ceux qui ont baffé la loi, c'est d'abord l'État.
J'aime bien, vous avez dit qu'ils ont baffé la loi, mais c'est ça, hein, qu'ils l'ont bafoué et baffé.
Exactement, baffé et bafoué la loi. Et ça m'a beaucoup marqué, effectivement, ce feuilleton de la tourterelle des bois qui a duré tout l'été, qui s'est achevé par une décision de justice et dans lequel rien ne va, Denis, rien ne va. Le ministère de l'écologie a enchaîné les erreurs, on va y revenir, tout ça pour arriver à un crash devant le juge.
Alors, le premier épisode de ce feuilleton, c'est quand même le cri d'alarme de l'Europe, parce qu'il y a un constat scientifique, le nombre de tourterelles en Europe a diminué de près de 80% entre 1980 et 2015, et donc évidemment ça va pas du tout, quoi.
Effectivement, il y a un effondrement de la population de cet oiseau, la tourterelle des bois, au niveau européen. La France est un territoire extrêmement important puisque c'est une voie de migration. C'est une espèce classée en déclin, à la fois par le Muséum National d'Histoire Naturelle français, mais également au niveau européen par une directive de 2009. Et la Commission européenne, qui était le gardien de ce droit, a mis en demeure, puis adressé un avis motivé, c'est-à-dire qu'elle a tapé sur les doigts de la France en juillet 2020, c'est-à-dire juste avant que l'État prenne la bonne décision, surtout de ne pas écouter la Commission européenne et de continuer à autoriser certaines pratiques, comme par exemple la chasse à la tourterelle des bois.
Ouais, d'accord. Alors, peu importe que l'Europe se fâche, l'acte 2 de l'affaire de la tourterelle, c'est un ministère de l'écologie qui écrit un projet d'autorisation pour chasser la tourterelle quand même dans des conditions assez incroyables.
Alors oui, la première chose qu'il va faire, et ça la loi l'oblige à le faire, c'est que le ministère de l'écologie va consulter un comité d'experts en leur disant « Écoutez, messieurs les experts de la gestion adaptative, ce sont les termes à employer, combien de tourterelles peut-on tuer ?» Réponse des experts, zéro. Alors, mais écoutez, messieurs les experts, si vraiment on en tue quand même un peu, parce qu'il y a des chasseurs en France, vous ne pouvez pas dire zéro, combien on peut en tuer sans tout à fait flinguer complètement la population de tourterelles. Et là, les experts leur disent, écoutez, si vous dépassez les 18 000, à ce moment-là, il n'y aura plus de tourterelles. C'est ce que d'ailleurs le juge plus tard notera. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on a manipulé un petit peu cette expertise scientifique pour faire sortir deux scénarios. Un à zéro, qui était le plus crédible, et un à 18 000, et je vous laisse.
Je crois que c'était 17 650, un truc comme ça.
Exactement. Quoi. Et je vous laisse deviner quel est le scénario qui, bien entendu, aura été retenu par l'État.
Bien sûr.
C'est pas celui à zéro. Et attendez, une consultation du public derrière qui a été organisée. Et dans cette consultation du public, il y a une présentation du texte. Où on, évidemment, à 18 000, on dit on peut en flinguer 18 000. Et le ministère de l'écologie explique à quel point il faut voter défavorablement à ce texte. Et d'ailleurs, 75% des gens qui vont s'exprimer sur ce texte vont dire non, on n'en veut pas de cette chasse. Qu'est-ce que va faire le ministère ? Scénario à zéro, avis défavorable, est-ce qu'il va interdire la chasse ? Eh bien non, c'est pas ça qui va se produire.
Bon, donc on se fiche évidemment des avis. Alors le ministère de l'écologie avait sans doute le fusil sur la tempe pour autoriser cette chasse illégale de la tourterelle, mais il a quand même mené une campagne, on va dire, de communication, sinon quand même d'enfumage, pour tenter de cacher ce qu'il était en train de faire.
Alors oui, moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé effectivement la chasse à la tourterelle donc un 28 août et le 27, ils ont organisé une grande campagne de communication pour dire qu'ils allaient interdire la chasse à la glu, ce qui était d'ailleurs pas tout à fait exact puisque on va juste suspendre pendant un an.
C'est tout.
Oui, donc on aurait dû en réalité totalement arrêter avec cette pratique tout à fait barbare. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on crée une sorte de nuage la veille pour faire oublier que le lendemain matin, au journal officiel, il y aura la grosse décision, celle de chasser la tourterelle.
Oui, d'accord. Donc les chiffres officiels, donc on voit tout cela. Et donc le juge des référés du Conseil d'État, donc là ils sont prononcés. Une audience s'est tenue grâce notamment à Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue pour la protection des oiseaux, rejoint par One Voice. Et là, le juge tape sur les doigts de la ministre de l'Écologie.
Ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que le ministère de l'écologie non seulement a essayé de détourner l'attention des médias de cette décision de chasser la tourterelle, mais en plus il a tenté de priver les associations du recours au juge, puisqu'en fait il a autorisé la chasse à la tourterelle la veille de l'ouverture de la période de chasse. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, le temps de saisir le juge, les chasseurs ont déjà commencé à tirer cet animal. Et le problème, c'est que le juge risque d'intervenir à un moment où on a déjà flingué les 18 000.
On dit qu'il y en a eu 7 000 à peu près. Donc
alors selon les associations, il y en a eu 7 000, mais c'est un peu difficile de compter, parce que vous savez, pour savoir combien de tourterelles sont mortes, il faut faire confiance aux chasseurs qui vont télécharger une appli sur leur smartphone qui s'appelle Chasse Adapte, et c'est à eux de s'auto-contrôler pour savoir combien d'animaux ont été tués. C'est absolument délirant, mais c'est comme ça que ça se passe effectivement. Donc le juge va se prononcer, et il va se prononcer de manière extrêmement sévère le 11 septembre 2020. Il va constater que oui, ça sert à quelque chose de juger, puisque toutes les tourterelles n'ont pas été tuées, la moitié quand même. Il va suspendre la décision de la ministre avec un argumentaire extrêmement sévère, et surtout il va appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il va dire à l'État, vous ne pouvez plus aujourd'hui dire, on n'est pas certain que la tourterelle disparaisse, dans le doute, eh ben vous interdisez la chasse. C'est pas dans le doute j'autorise la chasse, c'est dans le doute je ne peux pas autoriser la chasse, c'est le principe de précaution.
Et puis ce qu'il y a aussi, donc Arnaud Gosman, c'est de s'intéresser au vocabulaire employé, on le connaît, mais c'est quand même très intéressant, donc on va dire que le droit parle mal, peut-être. Donc...
Alors, la langue ne va pas bien non plus dans ce feuilleton, le juge n'allait pas bien, la communication n'allait pas bien, la décision n'allait pas bien, la tourterelle ne va pas bien, et effectivement, le vocabulaire devient absolument délirant, c'est-à-dire, on ne dit pas tuer, hein, on dit prélever, on ne dit pas chasse, on dit gestion adaptative des espèces, et on ne dit pas politique de la chasse, on dit, accrochez-vous, élaborer un cadre solide de modélisation de la gestion adaptative pour la chasse. Vous n'avez rien compris.
Super, c'est normal. Bon, et enfin, dans cette affaire de tourterelle, c'est aussi une affaire de responsabilité, parce qu'on sait quand même que Barbara Pompili a quand même des convictions, c'est pas du tout une passionnée de la chasse, ni des néonicotinoïdes, mais bon, elle a signé quand même.
Oui, mais je crois que dans cette affaire-là, il faut vraiment dépasser le problème des personnes, avoir une réflexion sur le système. Nicolas Hulot, dont personne ne remet en cause la compétence et l'engagement quand même depuis des années en matière
de technologie. Il s'est retrouvé coincé lui aussi. Donc...
C'est ça, il a dû quand même avaler des couleuvres dans un centre de secteur. Je ne suis pas étonné que Barbara Pompili ait été contrainte de signer cette décision. On lui a glissé clairement une peau de banane sous les pieds. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Démissionner ? L'arrêté chasse aurait quand même été signé. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est la place de ce ministère au niveau de l'État, son autorité et la capacité de ce ministère à se faire respecter par les autres ministères. On en est pour l'instant très loin.
Alors, est-ce que cette affaire, Arnaud, de la tourterelle, est-ce que c'est l'illustration d'une régression généralisée du droit de l'environnement ou pas ?
Généralisée, je ne pense pas. Mais il y en a, oui, c'est très clair. Vous en avez une belle qui est en cours et qui concerne aussi la ministre de l'écologie, nouvelle peau de banane. On lui demande de revenir sur sa propre loi, la loi qu'elle avait fait voter en 2016 sur la biodiversité. On lui demande cette fois-ci de soutenir l'inverse de ce qu'elle a soutenu en 2016, c'est-à-dire réautoriser les néonicotinoïdes, qui sont effectivement des produits pesticides extrêmement dangereux, notamment, on le sait, pour les abeilles. Donc là, c'est une régression du droit de l'environnement, c'est une violation du principe de non-régression. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans le métro, quand vous passez le tourniquet, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça s'appelle le principe de non-régression, c'est un principe fondamental du droit de l'environnement, et là aussi, on s'est assis dessus avec ce projet de loi.
Merci beaucoup pour ce décryptage. Vous voyez, on est revenu sur cette actualité, mais ça nous semblait tout à fait intéressant et vous reviendrez aussi de temps en temps. Donc Arnaud Gosman, notre avocat, c'est bien cela.
Environnementaliste,
bah oui, vous étiez quand même un habitué. Merci à Clément Berman, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis donc avec un décalage d'une semaine, je vous emmènerai en Côte d'Or donc la semaine prochaine avec Fred Bernard. Le répondeur 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35, le Twitter Denis Chessou, tout attaché, et puis les podcasts, abonnez-vous aux podcasts et de CO2 et de la Tulu Montilou, vous verrez, ça ne fait pas de mal. Je vous souhaite un excellent week-end et dans quelques instants, eh bien, ce sera une journée particulière.